Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes et nous allons regarder le psaume 47. Le psaume 47. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez tous, je pense qu'ici, oui, mais ceux qui nous écoutent peut-être pas, que tout le monde connaît le phénomène qu'on appelle un flash mob. Alors, une définition de cela, c'est un spectacle d'art soigneusement planifié et chorégraphié, souvent en chantant ou en dansant, qui est mise en scène dans les lieux publics avec l'apparence de la spontanéité. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu public et puis tout d'un coup, quelqu'un se lève et chante ou danse et puis petit à petit, d'autres personnes se rejoignent à lui et ensemble, ils font quelque chose de chorégraphié, de beau, de magnifique, avec l'apparence de quelque chose qui n'était pas prévu, alors que, bien entendu, tout cela a été planifié dès le départ. Et pour l'auteur du psaume 47, on devrait tous être impliqués dans un flash mob à tous les moments de la journée. On devrait, de manière spontanée, élever nos cœurs à la louange du grand roi. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel est un Dieu, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Et on va diviser ce psaume, on va, disons, marquer trois points. Regardez ce psaume sous trois points. Et le premier point, c'est que nous avons ici une célébration de la souveraineté de Dieu. C'est le thème général de ce psaume. L'Éternel est digne de louange parce qu'il est roi de toute la terre, comme le dit le verset 8. Des rois sont souverains dans le fait que tous leurs sujets leur doivent l'allégeance. Et puisque Dieu est le Créateur et le Seigneur de toute la terre, chaque être humain, chaque créature, et en particulier chaque être humain, lui doit la foi et l'obéissance. Dans son livre « Choisi par Dieu », R.C. Sproul écrit ceci: « En tant que souverain, Dieu est l'autorité suprême dans les cieux et sur la terre. Il a créé l'univers. L'univers lui appartient. Sa qualité de propriétaire lui confère certains droits. Il peut faire de son univers ce qui lui plaît, selon sa sainte volonté. » Dans la mesure où la plupart des gens aujourd'hui dans le monde pensent très peu à Dieu, ils ont tendance à le concevoir comme un spectateur lointain des affaires de ce monde qui il n'assume aucun rôle direct lui-même. C'est comme l'horloger qui a remonté l'horloge et qui ensuite part et laisse l'horloge tourner. Alors que la Bible présente une image bien différente de Dieu. En plus de son autorité royale en tant que roi, Dieu règne réellement avec sa puissance souveraine. Le psaume 135, verset 6, par exemple, dit ceci, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Dieu n'est pas à l'écart des affaires de ce monde. Psaume 22, verset 28, « Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. » Et la Bible étend le contrôle souverain de Dieu aux affaires individuelles de chaque personne, y compris chacun d'entre nous. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Matthieu 10, par exemple, versets 29 et 30, dit que même un passereau ne tombe à terre sans la volonté de Dieu. Et un peu plus loin, un passage qui me fait un peu sourire, mais que même les cheveux sont tous comptés sous le contrôle souverain de Dieu. Même mes cheveux. La doctrine de la souveraineté de Dieu n'est pas populaire chez la plupart des gens parce que les hommes et les femmes veulent croire en leur propre souveraineté. J'ai aperçu cette semaine, en passant sur le fil d'actualité de ma page Facebook, une discussion dans ce genre. Je n'ai pas réussi à la trouver pour citer exactement les propos, mais ça allait dans ce sens. Et j'ai retrouvé un poème d'un poète anglais, William Henley, qui a écrit un petit poème dont certaines parties ont été reprises par différentes personnes, telles que Winston Churchill, qui a paraphrasé le poème, ou Nelson Mandela, ou Barack Obama. Le poème s'intitule « Invictus », qu'on pourrait traduire « invincible » ou « invaincu ». Et l'être humain voudrait faire sienne ces paroles du poème. « Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. » Mais Dieu réfute cette vanité humaine. Et Dieu se déclare le seul maître des destins, le seul capitaine des âmes. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Et un peu plus loin, dans Ésaïe 45, versets 6 et 7, l'Éternel insiste encore, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et 1 Samuel 2, verset 7, nous lisons ceci, « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse. » Et il élève. La souveraineté de Dieu ne signifie pas que les hommes et les femmes n'exercent pas leur volonté, ne prennent pas de décision. La Bible enseigne que l'homme a une véritable volonté, même si l'homme est déchu, même s'il est esclave du péché. Mais il est responsable de ses actions. La volonté de Dieu est encore accomplie en toutes choses, même dans et par les actes pécheurs des hommes méchants. Le prophète Jérémie, par exemple, en Lamentations 3, versets 37 et 38, dit ceci, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Les rois de ce monde gouvernent par voie de proclamations royales qui sont envoyés dans tous les pays. Dieu règne également par décret, et ses décrets sont souverains. Le psalmiste dit au verset 9, « Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Et de ce trône, le décret de Dieu accomplit toute sa sainte volonté. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, par exemple, va dire que les croyants en Christ sont sauvés par le décret éternel de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 11, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et Ésaïe 46, verset 9 et 10, établit le décret de Dieu comme souverain sur toutes choses. Ésaïe 46, verset 9, « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Et pour le psalmiste, la souveraineté illimitée de Dieu s'étend à tous les peuples, qu'ils croient ou non. Dieu est souverain. Et ce psalmiste indique cette souveraineté, cette seigneurie universelle en nommant Dieu à la fois comme Yahvé, traduit en français par l'Éternel, le nom d'alliance que Dieu a donné pour que son peuple l'utilise et se rappelle de cette alliance. Mais il l'appelle aussi le Très-Haut, un nom qui était utilisé par les incroyants pour déclarer la divinité souveraine du Dieu d'Israël. Et parce que Dieu est souverain, le psaume sonne un appel universel à la louange. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Mais avançons dans un deuxième point et regardons la souveraineté de Dieu dans le jugement et le salut. Et le psalmiste va spécialement louer Dieu pour sa souveraineté dans le fait qu'il juge les ennemis et qu'il sauve son peuple. D'abord au verset 4, « Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. » Cette déclaration se réfère probablement à la conquête de Canaan par Israël sous la direction de Josué. Et cette conquête impliquait le jugement de Dieu sur les peuples qui habitaient dans le pays. L'image d'avoir des nations sous nos pieds se réfère à cette pratique ancienne de placer le pied sur la gorge des captifs qui avaient été conquis pendant la bataille, de montrer qu'ils étaient maintenant prisonniers. La victoire d'Israël ne résultait pas de la puissance d'Israël ou de la vertu d'Israël, mais c'était l'acte souverain de Dieu qui jugeait les ennemis qui habitaient dans le pays de Canaan. Il met des nations sous nos pieds. L'Éternel met des nations sous nos pieds. Et de tels jugements n'ont pas seulement eu lieu pendant la conquête de Canaan par Israël, mais ils ont lieu tout au long de l'histoire, de sorte que tous les hommes et toutes les femmes devraient louer, devraient craindre Dieu, qui est souverain, pour juger le péché et le mal. Dans son commentaire sur les psaumes, commentateur du nom de James Boyce écrit au sujet d'un homme appelé Arnold Toynbee, j'espère que je prononce correctement, qui, en 1961, a conclu son projet massif qu'il avait commencé en 1934. Et son projet était une étude de l'histoire avec un grand H. Et Toynbee avait identifié 34 civilisations distinctes. Et il avait noté que chacune, à son tour, s'était levée, était tombée, et puis a disparu. L'Égypte, par exemple, était une grande puissance tôt dans l'histoire, mais aujourd'hui, elle n'est plus cette puissance impériale. Babylone, dont on a mentionné tout à l'heure dans la lecture, Babylone régnait autrefois sur une grande partie de la terre, mais c'est maintenant en grande partie un désert stérile. La Grèce, Rome, se sont élevées comme des merveilles successives, mais toutes les deux sont tombées en ruine et ont été conquises. Et plus récemment, l'Union soviétique a pris le pouvoir avant de tomber à son tour. Et James Boyce commente, même les États-Unis d'Amérique, bien qu'ils soient maintenant au sommet de la puissance mondiale, sont en déclin et n'échapperont pas à la loi inexorable de l'histoire, à savoir que selon Proverbe 14, verset 34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. L'une après l'autre, chacune de ces puissances est crue souveraine sur la terre, mais chacune a appris la vérité du psaume 47, verset 8. Dieu est le roi de la terre, de toute la terre. C'est lui seul qui est souverain. Et l'histoire montre que lorsque les nations poursuivent la justice selon la volonté révélée de Dieu, elles prospèrent, elles acquièrent une puissance. Bien entendu, aucune nation, aucun être humain ne peut accomplir parfaitement la loi sainte de Dieu pour être juste par ses œuvres. Mais les nations qui sont généralement honnêtes, respectueuses de la vie, qui cultivent la vertu, vont généralement connaître la bénédiction sous la main de Dieu. Et d'autre part, l'histoire montre que les nations qui sont fondées sur la cupidité, sur la passion charnelle, qui cultivent la méchanceté, la violence, vont inévitablement tomber dans la ruine, même quand elles se croient être grandes. La leçon, c'est que le jugement de Dieu sur les nations devrait nous amener à louer le Seigneur et à le craindre. Parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est lui qui juge. Craindre Dieu, cela veut dire que nous respectons sa parole qui est souveraine, que nous avons peur de nous rebeller contre lui, de désobéir à ses commandements. Verset 3, « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » La crainte de Dieu est une leçon qui est enseignée par Sanchérib, le conquérant assyrien, qui a pris le titre de grand roi pour lui-même. On lit cela en Ésaïe 36, verset 4. Rappelez-vous, Sanchérib s'est élevé contre Juda, de sorte que le roi de Juda, Ézéchias, est allé dans la présence de l'Éternel, s'est agenouillé devant lui pour implorer sa protection. Et Ézéchias s'est adressé à Dieu comme au grand roi. Et nous lisons en Ésaïe 37, verset 16, sa prière, « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Ézéchias a reconnu cette souveraineté de Dieu sur toutes choses. Et en réponse à la prière d'Ézéchias, l'Éternel a détruit l'armée assyrienne de 185 000 soldats. Et peu après, Sanchérib a été tué et sa revendication de souveraineté a été démentie. Ce n'est pas Sanchérib qui est souverain, c'est l'Éternel. Ézéchias nous montre aussi que si ses détracteurs du monde haïssent l'idée, la souveraineté de Dieu est une source de joie, une source de réconfort pour le peuple de Dieu. Tout comme Dieu a sauvé Jérusalem dans l'ancien temps, notre salut est établi par le décret éternel de Dieu et il est soutenu par la puissance souveraine de Dieu. Et personne ne pourra le détruire, personne ne pourra nous détruire, comme Paul le chante d'une certaine manière en Romains chapitre 8, personne ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Le verset 5 célèbre la grâce de Dieu. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Juste une parenthèse sur le mot « pause » ici. Rappelez-vous que les psaumes étaient chantés. Et donc, quand il y a le mot « pause », c'était aussi une manière de... Il y avait un interlude musical. C'est aussi une manière de réfléchir sur ce qu'on venait de chanter. Et cette déclaration que nous avons au verset 5 fait probablement référence au don que Dieu a fait du pays de Canaan. une terre de lait et de miel pour être l'héritage de son peuple. Et à l'intérieur du pays de Canaan, l'Éternel a distribué les terres pour être un héritage pour chaque tribu, chaque clan, chaque famille. Cet héritage était l'orgueil, la joie d'Israël, un symbole de l'amour de Dieu pour eux. Il nous a donné cette terre. Et alors que l'histoire de la rédemption avance avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous constatons, nous réalisons que la terre de la promesse était le symbole de toute la richesse du salut qui nous vient par la foi en Jésus-Christ. Voilà tout ce que Dieu nous donne, comme Israël en Canaan. Nos bénédictions de salut sont l'héritage souverain de Dieu, le don de son amour pour nous. Il nous fait entrer dans cet héritage. Le Nouveau Testament souligne que la grâce souveraine de Dieu est la source de notre salut. Le salut commence par la prédestination éternelle de Dieu qui choisit son peuple, qui élit son peuple, qui sont ensuite appelés de manière effective à la foi par le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de sa parole, par l'Esprit qui œuvre dans les cœurs, qui sont par conséquent justifiés, sanctifiés, glorifiés, comme Paul écrit en Romains 8, verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et tout comme le Juif dans l'Ancien Testament pouvait célébrer comment Dieu a choisi notre héritage pour nous, comme le dit le verset 5 de ce psaume, Paul situe nos bénédictions en Jésus-Christ. Encore une fois, Éphésiens chapitre 1, verset 4 et à 6. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il a choisi notre héritage pour nous, et il l'a choisi en Christ. Et il nous donne toutes choses en Christ. C'est cette même grâce souveraine qui anime le psaume 47. Parce que non seulement la souveraineté de Dieu dans le salut nous donne le réconfort et l'espérance, mais elle nous motive à louer notre grand et sauveur roi. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 11, verset 36, l'apôtre Paul avait conclu « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. » Et le psalmiste fait écho en vantant la souveraineté de Dieu, tant dans le jugement que dans le salut. « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. » Il est un grand roi sur toute la terre. C'est lui qui a choisi notre héritage pour nous. Et donc cela nous amène au troisième point. Dieu est digne de notre louange. Le contexte du psaume 47 nous est révélé donc au verset 6 du psaume. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Certaines versions ont les verbes au passé. Dieu est monté au milieu des cris de triomphe et l'Éternel s'est avancé au son de la trompette. Les experts croient que ce verset se réfère à une fête annuelle qui célébrait l'intronisation du Seigneur, probablement avec une procession de l'Arche de l'Alliance jusqu'au Temple. Il est possible que le psaume se réfère même à la première venue à Jérusalem au temps de David, de l'Arche, le marchepied du trône de Dieu sur terre. Et ce thème correspond au psaume 47. On voit Israël prendre possession de la terre de la promesse, un événement qui couvre plusieurs générations, qui se termine quand David a capturé Jérusalem et a amené le trône de Dieu jusqu'à la montagne de Sion. Et de plus, le verset 6, dans sa formulation en hébreu, ressemble beaucoup au verset en 2 Samuel 6, verset 15. On lit ceci, « David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. » La formulation en hébreu est très similaire. Le psaume 47 semble avoir été composé en réponse à cet événement, ou alors dans des années qui ont suivi, pour se souvenir de cette montée vers Jérusalem, au temps de David, de l'arche de l'Alliance, sur la montagne de Sion. Et quand le peuple de Dieu célèbre l'ascension du Seigneur jusqu'à son trône dans le temple, il nous a rappelé que la souveraineté de Dieu est une cause de la plus grande joie. Savoir que Dieu règne, c'est jouir d'une grande bénédiction parce que toute personne qui regarde au Seigneur par la foi ne sera jamais déçue. Et c'est particulièrement vrai dans l'évangile de Jésus-Christ. Un commentateur écrit ceci, « La victoire véritable et finale du Seigneur ne consiste pas dans une soumission qui est amenée par la guerre et l'effusion de sang, ou dans la consternation qui stupéfie l'esprit, mais dans un changement dans l'esprit et le cœur du peuple, de sorte qu'il lui rende une adoration joyeuse. » Et les chrétiens voient un parallèle entre l'élévation de l'arche de l'Alliance jusqu'au temple de Jérusalem et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son trône dans le ciel. Voir notre Sauveur sur son trône de gloire, savoir que tout pouvoir lui a été donné, apporte la joie à notre adoration, nous pousse à offrir la louange à Dieu en son nom. Et le psaume 47 nous donne 5 descriptions de louanges qui devraient se trouver dans notre adoration. Tout d'abord, une louange joyeuse et exubérante. Le psaume commence avec ces paroles. « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Mais s'il y a cette exubérance dans le psaume, on doit aussi noter la différence entre nos cultes d'adoration et la scène rappelée ici dans le psaume 47. Le psaume 47 ne décrit pas les rassemblements réguliers des Israélites. Il ne décrit pas le culte régulier des Israélites, mais c'est une fête spéciale, c'est une occasion de célébration. Rappelez-vous, quand David est monté à Jérusalem et qu'il a amené l'arche de l'Alliance jusqu'au temple, il sautait, il dansait devant l'arche en s'avançant vers Jérusalem. Cet acte symbolique a été accompli lors d'une occasion unique, par une personne unique, qui était un type, un précurseur du Messie. Cet acte que David a accompli n'établit pas de mandat pour une danse liturgique dans les églises aujourd'hui. Et de même, l'appel du psaume 47 pour les festivités n'impose pas des cris, des applaudissements dans nos cultes, pas plus que cela n'était le cas pour les rassemblements réguliers à l'époque de l'Ancien Testament. Mais, ayant dit cela, à la lumière de la grâce souveraine de Dieu, notre adoration ne devrait jamais être triste, terne ou détachée. Nous nous rassemblons pour louer Dieu et nous sommes ceux qui ont toutes les raisons de se réjouir. Et donc le plaisir spirituel devrait être évident dans notre adoration. Le cri du peuple de Dieu et le retentissement des trompettes, rappelez-vous, ont fait tomber les murs de Jéricho quand Israël est entré dans la terre de la promesse, Josué 6, verset 2. Les cris du peuple et les sons des trompettes ont accompagné le couronnement des rois d'Israël. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur terre au son de la trompette et des cris des bouches de ceux qui auront été ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 52. Et nous devrions entendre cette trompette chaque fois que l'Évangile est prêché, chaque fois que l'Évangile est chanté. Et la clameur de la grâce de Dieu dans nos cœurs devrait produire une excitation joyeuse dans notre adoration. Notre adoration devrait être joyeuse. Deuxièmement, la louange est révérente et remplie de crainte. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que l'on est soit joyeux, soit révérencieux, ou révérent, ou révérencieux. Mais la Bible met les deux ensemble. La Bible les unit, par exemple, psaume 2, verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Psaume 2, verset 11, « Nous tremblons devant la majesté de la gloire de Dieu. Nous nous réjouissons de la grâce, de sa tendre miséricorde. » Nous avons chanté tout à l'heure ce cantique où nous nous approchons avec la joie, la liberté d'un fils devant son Père et la crainte d'un pécheur devant Dieu. La révérence est exprimée dans le culte qui est conforme à la parole de Dieu. David a appris cela quand il a amené l'arche au temple. Sa première tentative, rappelez-vous, c'était terminée par un désastre parce que David n'avait pas consulté les Écritures. Les Lévites faisaient monter l'arche de l'Alliance sur un char à bœufs, et quand l'arche a été déséquilibrée, un des sacrificateurs, Uzza, s'est saisi de l'arche pour la stabiliser, et en réponse à cela, le Dieu trois fois saint a frappé Uzza et l'a tué pour avoir osé toucher son trône avec une main profane. 2 Samuel 6, versets 6 et 7. David, le roi, a réalisé son erreur. Il a consulté l'Écriture, il a consulté les instructions de Dieu pour l'adoration. Et alors seulement, il a pu faire monter l'arche de l'Alliance vers le temple. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte à faire de même. Hébreux 12, versets 28 à 29. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Oui, il y a la joie d'être réconcilié avec Dieu, la joie d'avoir cette intimité avec Dieu, mais il y a aussi la révérence, la crainte. Troisièmement, l'adoration devrait être avec une musique, je dirais une musique maîtrisée. On voit cela au verset 7. On a ce verbe « chanter » que l'on trouve à quatre reprises. « Chanter à Dieu, chanter, chanter à notre roi, chanter. » Et le verbe en hébreu englobe à la fois le chant, mais aussi le jeu d'un instrument de musique. Alors les chrétiens ont peut-être pas tous des voix qu'ils considèrent attirantes, où ils ne pensent pas être doués pour jouer d'un instrument de musique. Mais chaque destinataire de la grâce de Dieu a un chant à chanter. Et il peut joyeusement offrir la musique à la louange de Dieu par Jésus-Christ. Selon le livre de l'Apocalypse, nous chanterons à la gloire de Dieu dans le ciel. Et d'une certaine manière, le psaume 47 nous dit de commencer les répétitions maintenant. Chantez, chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Quatrièmement, nous sommes appelés à adorer Dieu avec attention. Dans notre traduction, ce n'est pas clair. Le verset 8, la fin nous dit « chantez un cantique ». Dans l'hébreu, cela nous dit, si on le traduirait, enfin si la version française, dirait « chantez un masquille ». Alors, bien que le sens précis ne soit pas connu, les experts pensent que un masquille, c'est un chant d'instruction. Parce que la racine de ce mot contient l'idée de sagesse et de compétence. C'est un chant d'instruction. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné à ses disciples que nous ne devons pas offrir des paroles vides au Seigneur dans notre adoration. des répétitions vaines, comme le font les païens dans leur prière, Matthieu 6, verset 7. Au lieu de cela, nous devrions approcher Dieu en termes de vérité biblique claire. Et donc notre musique, nos chants doivent être bibliques dans leur contenu. Notre chant doit provenir de cœurs inspirés par la vérité de l'Évangile, comme nous allons passer l'éternité à chanter les vérités du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père. Mais cela ne signifie pas que notre culte doit être académique ou trop intellectuel. Un commentateur raconte l'histoire d'une visite qu'il a faite auprès d'un ami croyant qui était dans les derniers instants de son pèlerinage sur terre. Et cet ami se rappelait le jour de sa conversion à la foi en Jésus-Christ et il décrivait ce jour comme ce merveilleux matin où Dieu a transporté son âme dans l'océan de son amour. Et cet homme, l'esprit de cet homme s'est un peu dissipé. Et le commentateur a réalisé que le cœur de son ami s'était tourné vers l'adoration de Dieu. Et tandis que l'homme savourait silencieusement les bénédictions, ses bénédictions en Christ, le commentateur pouvait entendre sa voix qui répétait très doucement « C'est merveilleux, c'est merveilleux ». Et de même, notre louange, que ce soit en privé ou que ce soit ensemble, en tant qu'Église, notre louange devrait savourer les merveilles qui nous ont été révélées dans la parole de Dieu et qui nous ont été données en Jésus-Christ. Et ce commentateur écrit ceci. Le peuple de Dieu le loue et l'adore pour ce qu'il est dans son être essentiel. Il le loue pour son amour révélé dans le don et dans l'œuvre de son cher Fils et pour avoir sauvé leur âme de la mort éternelle. Il le loue pour ses jouissances plus pleines de son amour qui les attendent dans le monde à venir. Constamment émerveillé et émerveillé par ce que Dieu nous donne et par ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Et cinquièmement, le psaume 47 insiste sur le fait que la louange doit être offerte au Seigneur de manière universelle. En d'autres mots, chacun doit adorer le roi qui est intronisé. C'est avec ce principe à l'esprit que le psaume se conclut, non avec un commandement, mais avec une prophétie. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Rappelez-vous, le psaume a commencé avec un appel à tous les peuples pour applaudir, pour crier au Seigneur. Et il se termine par une promesse que les croyants de tous les peuples se rassemblent comme un peuple du Dieu d'Abraham. L'expression « les princes des peuples » peut désigner des croyants qui servent de représentants de leur tribu et de leur nation devant Dieu. Mais cette expression peut aussi indiquer que le Seigneur est capable de vaincre les chefs qui sont opposés à lui et de soumettre leur cœur par sa grâce. Et le psalmiste de dire « car à Dieu sont les boucliers de la terre ». En disant cela, il souligne que toutes les ressources de la puissance sur la terre sont à sa disposition. Aucune puissance ne peut s'opposer à sa volonté souveraine concernant le salut de son peuple. Personne ne pourra l'empêcher de sauver ceux qu'il a choisi de sauver. Il est réconfortant pour nous de réaliser qu'un psaume qui loue Dieu pour sa souveraineté arrive à son apogée, à l'adoration de Dieu par des pécheurs, par les lèvres des pécheurs qui ont été rachetés par sa grâce. Ainsi, l'ancienne promesse de Dieu à Abraham sera accomplie lorsque l'évangile de Jésus-Christ aura parcouru l'histoire. Rappelez-vous, Dieu avait promis à Abraham, et nous l'avons vu récemment, Genèse chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » et avec l'accomplissement de cette promesse. Alors que tous les rachetés se rassemblent comme le peuple du Dieu d'Abraham, la puissance souveraine de Dieu est démontrée. Ce qu'il a promis dans les temps anciens, il l'accomplit. Et plus que cela, nous célébrons la miséricorde souveraine qu'il a accordée à une multitude immense de toutes les nations qui se rassemblent pour toujours pour chanter la louange de notre Seigneur, de notre Sauveur, de ce grand roi qui est notre Dieu. Et à cause de la grâce souveraine de Dieu pour les pécheurs, le psalmiste conclut, Dieu est souverainement élevé. Il est souverainement élevé. À la lumière de cette prophétie qui termine le psaume, j'espère que vous voyez pourquoi l'image du flash mob dépeint si bien le psaume 47 dans sa louange spontanée et croissante à notre Dieu souverain. On commence avec un chanteur, puis quelques-uns, et puis les autres qui étaient là autour se lèvent pour rejoindre l'ensemble. C'est exactement ainsi que se déroule dans l'histoire la vision prophétique du psaume 47, où de plus en plus de gens se joignent à ce chœur pour chanter les louanges du grand roi. Et à la fin, le Seigneur Jésus-Christ sera hautement exalté par son peuple composé de personnes de toute langue, de toute tribu, de toute race, de toute nation. Cette chorale, ce chœur, grandit un membre à la fois quand le chant de l'Évangile se répand dans le monde. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous avons rejoint cette chorale? Est-ce que nous avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ? Et en réponse à la grâce merveilleuse de Dieu qui nous a manifestée, est-ce que nous élevons notre voix pour chanter ses louanges? Est-ce que par notre vie, d'autres sont attirés à rejoindre cette chorale pour louer ce Dieu grand, ce Dieu sauveur, ce Dieu tout-puissant? Que Dieu nous fasse la grâce de faire partie de ce peuple, d'être émerveillé toujours plus par cette grâce libre, cette grâce souveraine, et que nous fassions partie de ce peuple qui, déjà ici-bas, commence à le louer, peut-être de manière imparfaite, mais quand même, le loue pour sa bonté, pour sa grâce envers nous, et le louera de manière parfaite dans la gloire pour toujours. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.